Salut David Gauthier!
Salut Valérie, ça va bien?
On ne sait pas où ce qu'on s'en va avec cette chronique-là, parce qu'il y a beaucoup trop de sujets.
À vrai dire, si on se fie à nous deux, il va neiger.
Oui, il va neiger.
Oui.
Et on pourrait faire le reste de l'émission avec les sujets qu'on a, dont on a abordé.
Oui, mais moi je t'ai dit, en arrivant, je m'en viens relaxer avec toi.
Oui.
Fait que let's go, on peut jaser de tout ce qui est médical, moi je suis prêt.
Mais on n'est pas prêt à s'allumer un joint, ni toi ni
non,
moi.
Non, pas de mon Dieu, on n'a pas besoin de ça nous deux. Et encore là, si tu me lances une question que j'ai pas à réponse, ça va me faire plaisir de la ramener la semaine prochaine. Donc... j'ai la réponse à ta question.
Oui, parce qu'on a parlé de soins des pieds la semaine dernière et moi, je lisais sur mes crèmes là, pour mes pieds pas beaux, là, mes pieds de sportive, où il y avait une certaine concentration d'urée. Et moi, l'urée, ben, je sais que ça vient d'où? T'sais? Ça vient de l'urine. Et oui. Là, j'ai demandé à David, comment qu'on fait pour extraire cette molécule-là?
Puis en sortant des ondes, je t'ai dit fatigante avec tes questions, mais non. écoute, parce que c'est drôle, parce que effectivement, sérieusement, il y a certaines molécules qu'on va carrément chercher, entre autres certaines hormones qu'on peut chercher dans l'urine de la jument, entre autres. OK? Donc, pour comme faire des médicaments, finalement.
Mm-hmm.
Au niveau de l'urée,
j'ai une chanson traditionnelle en tête. Quand tu vas aller chercher ta pénicilline, là, envoyez la petite, tu sais... pour l'encourager.
Oui, je pense que je vais rester longtemps en onde si on dérape.
Ben oui.
Mais écoute, Valérie, si l'urée est faite de façon synthétique. Donc, rassurez-vous, Valérie, on n'a pas besoin de toi en laboratoire pour faire notre crème. Alors, tu peux tranquillement utiliser la crème, mais c'est fait de façon synthétique.
Ah, ben ça me rassure.
Amène-moi ailleurs avec d'autres questions.
Effectivement, est arrivée sur le marché vendredi dernier la naloxone.
Oui, ben à vrai dire, arrivée sur le marché, on l'avait la naloxone. L'histoire là-dedans, c'est qu'avec toute la crise des opioïdes...
distribuée gratuitement.
Et voilà, c'est que maintenant, le pharmacien, on a le droit de prescrire de la naloxone, de donner de la naloxone et éventuellement, le gouvernement va nous rembourser pour ce qu'on donne. C'est sûr que c'est dans un contexte où ce qu'on va ramasser de l'information, donc on va compiler l'information soit de la personne qui en a directement de besoin ou de la personne aidante qui vient le chercher. Faut comprendre que la naloxone, c'est un peu notre antidote hein, contre les narcotiques, les opiacés. Écoute, tout ça est fait... autour de l'histoire, il y a beaucoup de crises au niveau du fentanyl et ces choses-là. Je te dirais que ce qu'on se fait conseiller, c'est quasiment de rencontrer tous nos patients qui prennent des narcotiques et de leur expliquer comment fonctionne l'naloxone.
C'est du cas par cas aussi,
ce que je rajouterais à ça, Valérie, c'est que si toi, tu prends à tous les jours de la morphine pour ta douleur et qu'une journée, tu doubles la dose sans t'en rendre compte, par erreur, ben toi, tu vas avoir développé une certaine résistance à la morphine. Donc, ça veut pas dire que tu vas me faire un arrêt respiratoire, une diminution importante de ton rythme respiratoire parce qu'on a doublé la dose. Parce qu'il faut comprendre que c'est ça un peu le problème. C'est quand on a des doses de morphine importantes et qu'on est vulnérable à ça, qu'on n'a jamais pris ça et que tout d'un coup, on prend de la morphine, c'est notre rythme respiratoire surtout là, qui va diminuer, qui nous met à risque. Okay? Mais là, tous nos patients, je pense que ça serait pas utile de rencontrer nécessairement tous nos patients. Ceci étant dit, je pense que c'est important en pharmacie d'avoir ça, d'être disponible pour ça, d'être bien formé pour ça. On va avoir des formations particulières, les pharmaciens, pour qu'on puisse parfaitement l'expliquer aux gens qui vont en avoir de besoin. Donc, présentement, le problème, c'est qu'il y a une rupture de naloxone. Mm-hmm. Écoute, je fais attention à ce que je dis, mais en même temps, des fois, je me dis, c'est-tu... les compagnies qui vendent la naloxone sont contentes, là. Ils en vendent pas mal, puis je me dis, on a-tu vraiment besoin d'y aller aussi fort que ça? Comme je dis, c'est important d'en avoir, mais en même temps, je sais pas. Des fois, je me demande si c'est pas une tempête dans un verre d'eau aussi. Ceci étant dit, il faut faire la prévention, puis je pense que peut-être que moi, je suis un pharmacien qui parle au Québec puis qui a pas tant de cas que ça. Moi, dans ma pratique, quelqu'un qui m'a appelé puis qui était en problème respiratoire suite à une prise de médication, de narcotiques, d'opioïdes, ça m'est pas arrivé souvent. Je pense que ça m'est arrivé une fois en 8 ans. Ou en 9 ans, mais dans l'Ouest canadien, c'est très, très fréquent. Puis là, on entend encore des cas de gens qui vont décéder suite à des overdoses de fentanyl. Alors, ça vaut la peine d'agir en amont et non pas en aval, là, fait que quand même, ça a sa raison d'être.
OK, puis les distributeurs qui disent qu'ils vont régler la situation assez rapidement.
Bien, il va falloir, hein, parce que tout le monde essaie de s'en procurer. Puis ce qu'on fait en pharmacie, c'est qu'on fait des kits. Donc, dans le kit, on met la naloxone, les seringues, les tampons. Donc, on se fait des petits kits pour être prêt. C'est sûr qu'une pharmacie, des fois, il y a la drogue de rue, mais il y a en même temps nos patients qui en prennent de façon médicale là, pour se soigner. Alors, c'est sûr, je pense qu'il y a des pharmacies qui sont plus à risque au niveau de la drogue de rue, vont préparer peut-être plus de kits, en ont plus de besoins. Sauf que, encore là, c'est comme fait d'un coup. Fait qu'on n'a pas hâte de s'en procurer parce que c'est fait d'un coup, puis les compagnies ne peuvent pas suivre. Mais c'est ce qui arrive souvent dans notre domaine, malheureusement.
Et un sujet qui revient année après année, moi je suis comme Louis-José Aude, hein, préfère novembre, c'est le oui. titre de son nouveau spectacle. Moi aussi, c'est mon mois préféré. Oui. Par contre, il y a des gens qui se sentent plus déprimés et qui ont de la difficulté à dormir.
À dormir, hein. Surtout dans le changement d'heure, là, à vrai dire. Ce qu'il faut comprendre, je te l'ai déjà expliqué, c'est que quand la luminosité diminue, normalement, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à sécréter un hormone qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine nous prépare au sommeil. Ce qui arrive, c'est que quand il y a un changement dans la luminosité, la mélatonine n'est pas sécrétée de la même façon. Donc, il y a vraiment une raison biologique, physiologique qui fait en sorte qu'on peut moins bien dormir. Les gens connaissent probablement la mélatonine parce qu'elle est commercialisée en 3 mg, 5 mg, 10 mg. Elle est commercialisée pour aider à dormir. Okay? La mélatonine, ce qu'on sait de base, c'est qu'elle était utile pour les gens qui ont un décalage horaire. Encore là, c'est un changement de luminosité. Donc, on s'en servait avant que les gens partent, on leur en donnait pendant le voyage et après, souvent pour rétablir les cycles circadiens, parce qu'on se dit que la mélatonine sert à ça, entre autres, et ça peut fonctionner. Au niveau du sommeil, il y a des gens chez qui ça fonctionne, chez qui ça fonctionne pas. Il y a des gens qui ont des problèmes d'insomnie aiguë. Ça peut durer à l'intérieur d'un mois, on peut vivre un stress, ça peut être un médicament, soigner des médicaments. Écoute, pour le fun, quand je regardais pour ma chronique, il y a des centaines de molécules qui peuvent causer de l'insomnie. Okay? Mais souvent, c'est transitoire. Fait qu'on peut utiliser des fois des molécules pour nous aider de façon transitoire, justement, parce que c'est quelque chose d'aigu. Par contre, il y a des gens qui vivent des stress un peu plus chroniques. Il y en a qui ont des douleurs chroniques. On parle justement de douleurs. Bien, la douleur, le stress, différemment du temps de l'année aussi, peut causer de l'insomnie et à long terme peut causer un problème. Ce qu'il faut faire attention avec les médicaments, c'est il y a une certaine accoutumance reliée aux médicaments pour dormir. Mm-hmm. Okay? Moi, je mets toujours en garde de deux choses. Il y a l'accoutumance pharmacologique, donc il y a des molécules, surtout sous prescription, qui peuvent causer une accoutumance pharmacologique, et il y a aussi l'accoutumance psychologique.
Ah oui, j'ai pas pris ma pilule, je dormirai pas.
Et voilà, si je te donne un bonbon puis je te dis qu'il va te faire dormir puis qu'il te fait dormir, ben tu vas vouloir le bonbon pour dormir. Ouais. Ben des fois, c'est ça. À vrai dire, si c'est de la mélatonine, puis qu'il y a une accoutumance psychologique, ça me dérange pas bien. OK? Dans le fond, si ça fonctionne, c'est tant mieux. Mais dans d'autres sens, des fois, il faut faire attention. Fait que tout ce qu'il y a sur les tablettes, il y a beaucoup de marques commerciales. Hein? Les Sleepies de ce monde, ce qui passe à la TV pour nous aider à dormir. Est-ce que tu sais ce qu'il y a là-dedans?
Bon, ça doit être du Benadryl.
Et voilà. C'est du Benadryl. Mais c'est exactement ça. Mm-hmm. C'est de la diphénhydramine qui est à l'intérieur. On joue avec les doses, mais c'est quand même juste ça qui est à l'intérieur. Ceci étant dit, ça peut fonctionner. Ça peut marcher pendant quelques jours, si on le prend surtout un peu, excuse-moi l'anglicisme, mais on and off. Mais si, bon, toi qui fais des allergies, je pense, des fois, ou des rashes cutanées, si je te donne du Benadryl pendant deux jours, ça se peut que tu sois endormi toute la journée.
C'est pas assez fort. Fait qu'imagine oui, toi, comment ça tu dors.
Oui, exactement.
Quand tu prends plus fort, tu dors.
Sauf qu'à un moment donné, si je t'en donne quatre fois par jour pendant six jours, ton corps s'habitue puis tu dors pas. Fait que c'est le même principe quand on le prend pour dormir. Donc, encore là, c'est de voir à quel point qu'on en a besoin. Et l'autre chose, nos habitudes de sommeil changent. Moi, plutôt, on a peut-être besoin de 8 heures de sommeil. Et l'affaire, là, c'est peut-être...
Mais toi, t'es loin des avoirs.
Oui, non, je les ai pas en ce moment. Mais, tu sais, c'est pour dire, moi, je peux avoir peut-être 5 heures, je vais faire ma journée comme il faut, puis toi, t'as peut-être besoin de 9 heures. Ça, faut pas comparer. En moyenne, c'est à peu près 7 à 8 heures qu'un adulte a besoin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a moins besoin de dormir en vieillissant. Mm-hmm. Donc, personnellement, moi, je trouve que les personnes âgées, on a tendance à leur donner des médicaments pour qu'ils dorment. On a le goût de les faire dormir parce qu'ils veulent dormir, et je les comprends parce que c'est plate d'être debout la nuit. Mais en même temps, là, ils dépensent pas mal moins d'énergie que moi pis toi dans une journée. Donc, si on dépense moins de calories, peut-être qu'on a moins besoin de dormir. Ce qu'il faut évaluer dans notre problème d'insomnie, c'est pas tant le nombre d'heures qu'on dort. C'est quand je me lève le matin, est-ce que je suis en forme?
Oui, est-ce que je suis disposé?
Et voilà. Est-ce que les heures que j'ai eues de sommeil me permettent de faire une journée normale, de me sentir bien, de ne pas me sentir stressé, puis de faire mes activités normales dans une journée? Si la réponse à ça, c'est oui, puis que tu as dormi 4 heures. Ben, prends pas une pilule pour en dormir 8, t'en as pas besoin. Faut juste essayer de régulariser notre façon de dormir, régulariser nos heures de sommeil. Et voilà.
La mélatonine, c'est pas avec ça qu'on faisait des armoires dans les années 90?
Non. Tu vois, j'ai la réponse à ça. Non.
D'accord.
C'est très drôle. Mais la mélatonine, là, en passant, tu sais, la semaine dernière, j'étais avec plein de produits naturels en disant ça peut être bon pour telle affaire.
Peut-être bon.
Hey, la mélatonine, c'est la même affaire, là. Ça pourrait être bon pour la fibromyalgie, pour prévenir les migraines, pour protéger la peau de certains rayons, pour le sevrage de certains médicaments. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui sont zéro prouvées, là. Okay. Les deux utilisations les plus populaires, qui ne sont pas prouvées, mais populaires, c'est le décalage horaire et le sommeil pour l'insomnie.
Ben, on va se retrouver à la même heure la semaine prochaine. D'ici là, on peut aller te voir chez Brunet.
Absolument. Je pense que je prépare rien pour la semaine prochaine. Je vais juste prendre tes questions.
On s'appelle. Okay. Salut.
Bye-bye.